Chapitre 16. J'ai passé le reste de la semaine en mode furtif, multipliant les combines pour éviter mon entourage. Mes parents m'ont laissé plusieurs messages auxquels j'ai simplement répondu par texto, invoquant la surcharge de travail au magasin. Mes patates se sont manifestées, elles aussi, mais pour la première fois de notre histoire, j'ai esquivé. Jeudi soir, ma voisine est passée, officiellement pour m'emprunter de l'huile. Avec des minauderies attendries, elle m'a confié que le facteur lui avait demandé de mes nouvelles. La pauvre imagine déjà une idylle, comme dans les téléfilms qu'elle regarde l'après-midi. Je lui prédis plutôt un meurtre, comme dans les séries diffusées en deuxième partie de soirée. Quel glu, ce Florian. Il a dû passer mon courrier au crible et je n'ai aucun doute sur le fait qu'il soit l'auteur de la lettre anonyme, timbrée à l'économie, qui se veut un poème enflammé. Les jours sans toi n'existent pas, blablabla, seul ton regard soulève les montagnes de ma solitude, sois ma princesse, je serai ton chevalier, ensemble sautons dans le train de l'amour, n'importe quoi. Il doit être convaincu que je vais me pâmer devant cette verve recyclée. Si j'avais le temps, je m'amuserais à retrouver dans quelle chanson il a piqué chaque vers, mais j'ai autre chose à faire. Ces derniers jours, mon état a constamment fluctué sans parvenir à se stabiliser. C'est épuisant. Je navigue en solitaire en pleine tempête, parmi des écueils de colère. Ma coque prend l'eau, aucun vent dans les voiles, grosse dépression annoncée, et pas même une île déserte en vue pour m'échouer. Je suis à deux doigts de me saborder. Pour échapper à mes tourments, je m'efforce de me concentrer sur ce que j'ai à faire sans chercher plus loin. Une pensée m'obsède cependant, l'impression que m'a laissée ma visite à la cabane aux écureuils. J'y songe en permanence, en tâche de fond. Je la revis par bribes, n'importe où, n'importe quand. Elle s'impose à moi. Le lieu et ses improbables rencontres me hantent. J'ai du mal à croire que cette visite ne soit pas née de mon imagination. En tout cas, j'en rêve la nuit. Le fait est que l'envie d'y retourner dès ce week-end constitue ma seule boussole dans ma perdition. Mine de rien, le voisin de l'écluse et l'accident avec Nolan ont réussi l'exploit de me distraire de ma propre existence. Mieux préparée que la première fois, j'ai repris la route samedi matin de bonne heure. Faisant preuve d'un accès de superstition qui ne me ressemble pas, je me suis arrêtée exactement à la même station-service où j'ai acheté les mêmes rations de survie. On se sécurise comme on peut. Cette fois-ci, même s'il fait gris quand j'approche, au moins il fait jour. Je m'engage sur la route à gauche à la sortie du dernier village et je roule en direction de nulle part. J'aperçois la maison. Personne devant. J'ai toute la place pour me garer. Je descends. Aucune musique hormis le souffle des bourrasques qui détachent les dernières feuilles des arbres. Je prends le temps d'écouter la saison. Aujourd'hui, je ne suis l'otage d'aucun rythme autre que le mien. Deux corneilles passent au-dessus de moi en criant pour se poser au sommet du toit, mon comité d'accueil. Ça me va. Je traverse la route. Je m'en rends compte aujourd'hui. La cabane aux écureuils est effectivement isolée. En cette fin de matinée, la maison paraît encore assoupie. L'atmosphère est tellement différente aujourd'hui. Le clou qui dépasse du poteau de la clôture est là pour me rappeler que tout n'est pas le fruit de mon imagination. Je suis obligée de tester plusieurs clés du trousseau avant de trouver celle qui ouvre la porte. Je repousse le battant. Une surprise m'attend. Le couloir est dégagé, le sol impeccable. J'actionne l'interrupteur et c'est une lumière parfaitement normale qui éclaire soudain l'intérieur. Tout a été nettoyé, briqué. Je découvre un tout autre lieu. J'en suis aussi incrédule qu'intimidée. Je retire mes chaussures. Le contact des tomates froides sous mes pieds accentue l'impression de pénétrer dans un lieu depuis longtemps déserté. L'ambiance est aux antipodes de celle de la semaine passée. Il ne peut s'agir de la même maison. Ce que j'éprouve est complètement différent. J'avance. L'alcôve bruyante et bondée est redevenue un paisible bureau et le vestiaire une chambre d'appoint. Sur le mur de l'entrée, une rangée de porte-manteaux d'école primaire est fixée à hauteur d'enfant. Je ne l'avais pas remarqué la première fois. Parvenue à l'extrémité du couloir, Je pénètre dans le salon et l'effet est encore plus frappant. Les meubles ont été remis en place. Je ne suis plus dans une boîte de nuit, mais dans une maison de vacances familiale. Elle dégage enfin un caractère, laissant filtrer quelques indices sur l'histoire de ses occupants. Sur la longue table rustique, j'avise une lettre posée bien en évidence. Mon cœur se met à battre plus fort. Est-ce le message de mon géniteur que j'avais imaginé? Comment serait-ce possible? Salut Amandine. Je ne sais pas quand tu vas revenir, mais j'ai fait ce que j'ai pu aussi vite que possible. J'ai tout nettoyé et, avec des copains, on a redescendu les meubles. J'espère que tu seras contente. Deux raisons m'ont poussé à tout remettre en état. Un, devoir pleurer en découvrant ta maison après la fête m'a vraiment chamboulée. Toi, si malheureuse alors que tu m'avais aidée, que tu t'étais montrée si gentille et que t'avais cuisiné pour moi, j'ai franchement pas aimé. Deux, j'ai pas osé te le dire en face, mais je suis en grande partie coupable du fait qu'il y ait eu tellement de fêtes dans la maison. Je n'ai pas menti, je ne connais pas la fille de l'ancien propriétaire, mais c'est moi qui ai gardé les clés et qui ai continué. Je sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais, mais ça n'a pas d'importance. Alors voilà. Pour me faire pardonner, si t'as besoin d'aide pour nettoyer encore plus, tu peux compter sur moi. Je te laisse mon numéro, comme ça quand tu viens, appelle et je passe te rendre tes clés. Nolan. Sous sa signature, il y a un PS. Promis, j'aurai des vêtements en un seul morceau et propre. Je suis émue de me trouver ici, de ce que ce garçon a fait pour moi, du flot de sentiments contradictoires qui me fait tanguer. Étrangère en ce lieu, mais avec une lettre qui m'y accueille comme si j'étais légitime. Venue pour essayer de rencontrer quelqu'un qui m'y a donné rendez-vous mais ne reviendra jamais. Je suis submergée par différentes vagues d'émotions dont je suis incapable d'analyser la nature. Tout se mélange au risque de me noyer. Personne n'est là pour m'aider à écoper. Je vais jusqu'aux fenêtres qui ouvrent sur le jardin. D'autres que moi se sont tenus là, exactement à cette place, pour contempler cette vue. Au bas de l'étendue arborée, j'aperçois l'écluse, et sur l'autre rive, la maison d'éclusier. J'ai l'impression d'être l'intruse d'une vie qui n'est en rien la mienne. L'homme qui m'a légué cette propriété a certainement dû y songer en appréciant ce même panorama. Étrange sensation de proximité avec un être dont j'ignore tout. Je me retourne. Où prenait-il place dans cette grande pièce pour se sentir bien? Avait-il un fauteuil favori? Aimait-il lire? Quel écho de sa voix, ses murs et pères envoyait-il lorsqu'il s'adressait à ses enfants? J'essaie d'imaginer les instants qui constituaient sa vie, quand il en était encore le maître. La porte qui conduit à l'étage n'est plus verrouillée. L'escalier de bois sombre porte les marques du temps. Je gravis les marches une à une, telle une aventurière explorant un tombeau hindou. Je suis à l'affût. Tout m'interpelle. Les traces d'usure, le papier peint, autant de témoins d'un quotidien qui m'est totalement étranger tout en rappelant pourtant beaucoup celui dans lequel j'ai écrit ma propre histoire. Dans le pavillon où j'ai grandi, il y a aussi ces petits accros dans les surfaces. Mais chez nous, je me souviens de ce qui a causé chacun d'eux. Pas ici. En arrivant sur le palier mansardé, je découvre une vaste accumulation de bibelots, d'éléments de décoration stockés comme dans les réserves d'un musée. Un étroit passage permet de se faufiler dans ce fatras. Au-delà, quatre chambres, une salle de bain et ce qui fut sans doute un espace de jeu. Une trappe au plafond laisse supposer qu'un grenier se trouve encore au-dessus. Mon cerveau tourne à plein régime. Je suis une archéologue qui tente de reconstituer un monde disparu grâce aux pièces du puzzle qui l'entoure. Qui a dormi dans ces lits? Qui avait ce goût pour l'art africain? Qui aimait jouer à ces jeux de société? Qui lisait à la lumière de cette étrange lampe en forme de chien qui fait le beau? D'innombrables questions se télescopent au sujet des personnes qui ont vécu ici. Mais la maison offre peu de réponses. Elle me renvoie surtout à ce que je suis. Elle m'y confronte et m'interroge sur moi-même. Une sorte de dialogue s'instaure entre mon âme, mon histoire et ce lieu dépositaire de la mémoire de ceux qui n'y sont plus. Jamais, je le pressens, je ne pourrais me sentir chez moi dans cette demeure. Impossible. Chaque espace déborde des souvenirs d'une famille pour laquelle je n'existe pas. La veuve avait raison. Je n'ai rien à faire dans cet endroit. Besoin de faire une pause dans ce parcours initiatique épuisant. Je m'installe sur un tabouret au milieu du bric-à-brac du couloir. La maison est clémente et me laisse au moins le loisir de reprendre mon souffle sans m'étouffer. Dehors, le bruit d'un moteur attire mon attention. À ma grande surprise, le véhicule ralentit et s'arrête. Certainement Nolan qui passe me rendre les clés avant même que je l'appelle. L'idée de le revoir me fait démesurément plaisir. Ne plus être seule. Et puis j'ai envie de le remercier pour tout ce qu'il a fait. Je me lève d'un bond et dévale l'escalier pour aller l'accueillir.